sais pas si il marche quand même un petit peu. On va prier. Oui, Père. Merci pour le privilège que nous avons de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, tu sais, la parole qui sera dite ce matin sera peut-être dure, dure peut-être à accepter, mais Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux nous dire et que nous puissions la recevoir avec douceur comme c'est marqué dans ta parole, sans contestation. Et Seigneur, je te prie de m'aider à la transmettre fidèlement. Tu sais combien j'ai besoin de toi. Je te prie aussi pour les enfants, pour qu'ils puissent recevoir ta parole. T'en prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes arrivés et nous avons déjà commencé un petit peu le chapitre 9 de l'Épître aux Romains. On avait vu les cinq premiers versets où on avait vu l'amour de Paul pour ses frères, selon la chair. Il était même prêt qu'il soit même anathème pour que ses frères puissent être sauvés. Et là, nous avons vu l'amour pour les perdus. Et combien c'est une leçon pour nous. Est-ce que je suis prêt à aller annoncer la parole à ceux qui sont perdus? Nous avons vu aussi tous les privilèges que le peuple juif a eus. On avait vu l'adoption, la gloire, l'alliance, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, le Messie. Et nous savons qu'il y a eu un rejet. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc on va continuer, mais je voudrais qu'on commence à relire le chapitre à partir du verset 1. Je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème, être séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui soient enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, qui n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de Dieu. De celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture a dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en moi, en toi, ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, mais pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui est écrit? Qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est donc qu'il dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on le disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Isaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Promesse, privilège, rejet. Alors ça voulait dire que ce que Dieu a dit dans sa parole, est-ce que sa parole va se réaliser malgré tout? Israël s'est endurci, mais cela ne veut pas dire que les promesses de Dieu soient devenues caduques. Et Paul va démontrer que Dieu est souverain, que sa parole va s'accomplir et s'accomplit. Et il va expliquer que, en fin de compte, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas forcément le vrai Israël. Et là, il va commencer à faire ses arguments. Et il va parler d'Abraham. Il va parler d'Abraham, et c'est vrai qu'Abraham a eu plusieurs fils, mais qu'un seul. C'est vrai qu'il y a eu Ismaël, il a eu Isaac, mais il a eu aussi 6 fils avec Keturah. Et malgré tout cela, il n'y en a qu'un, Isaac, qui a été choisi. Celui, l'enfant de la promesse. Et c'est pour ça qu'il dit, « Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah aura un fils. Et c'est Isaac. Isaac qui est de la postérité d'Abraham. Alors à un moment donné, il y a eu des problèmes et Abraham, par la pression de sa femme, ben, il fallait que Ismaël parte. Et il était travaillé, Abraham, de renvoyer Ismaël avec Agar. Mais Dieu lui dit, non, non, il n'héritera pas. Il dit dans Genèse 21:12, il dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte son nom. C'est lui qui a été choisi. Pas Ismaël, Isaac. L'enfant de la promesse. Alors, il veut montrer par là que tous, même s'ils sont des enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous forcément des enfants de Dieu. Et il y a un passage parallèle dans le Nouveau Testament. À un moment donné, il est dit dans Jean 8 que plusieurs Juifs crurent. Et le Seigneur dit, mais si vous gardez ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Et Juifs y répondent, « Ah, mais nous sommes de la postérité d'Abraham. » Et Jésus leur dit, et c'est Jean 8, 37, il dit, « Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous me cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Et un peu plus loin, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Donc ils se disaient de la postérité d'Abraham, et pourtant, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Et nous avons déjà vu dans Romains 2 que le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence ou la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et plus tard, dans l'épître aux Galates, il est dit, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » C'est formidable, on voit toute la parole qui se tient, c'est formidable. La parole de Dieu continue à s'accomplir, elle n'est pas caduque. Et il continue, dans Galates 3, 29, il est dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Waouh, c'est beau, n'est-ce pas? La parole de Dieu s'accomplit. Et il continue, il dit « Et Rebecca ?» Et vous savez ce qui s'est passé à Rebecca? Elle était stérile et Isaac a prié. Et Dieu a répondu et il a fait qu'elle attende des jumeaux. Et c'était, pour Rebecca, elle était troublée. Comment ça se fait que j'ai des jumeaux? Et elle prie Dieu, elle demande, mais... Et Dieu lui répond. Dieu lui répond. Il lui parle de... qu'il y a deux nations dans son ventre. Deux peuples qui vont se séparer au sortir de ses entrailles. Et que le plus fort, le premier, en fin de compte, sera assujetti au plus petit. Qu'en fin de compte, l'aîné sera assujetti au deuxième. Et le premier qui est sorti, c'est Ésaü. Et, d'ailleurs, c'est très intéressant, Jacob tenait le pied d'Ésaü. Et c'est lui qui est choisi de Dieu. Là, il ne parle pas du choix du salut. Il parle de deux peuples. Il parle d'un peuple, le peuple qu'il a choisi, ce peuple où viendra le Messie, le peuple d'Israël, le peuple où il y a cette promesse de ce Messie. Alors, c'est vrai que la suite nous dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Waouh! Ouh là là, qu'est-ce que ça veut bien dire ça? Ah, il y en a qui essayent de dire, oui, il a moins aimé Ésaü. Ah non, il a haï Ésaü. Wow, c'est marqué dans la parole. Alors, faut dire que cette phrase-là n'a pas été donnée à Rebecca. Cette phrase-là, cette citation, elle est venue 1400 ans plus tard. Elle a été donnée à Malachi. Et il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a eu entre-temps. Ésaü, nous savons qu'il a mal tourné, qu'il a vendu son droit d'aînesse. Nous savons aussi que Ésaü, qui est le peuple d'Édom, a été très dur envers Israël. Quand le peuple juif qui est sorti de l'Égypte, et à un moment donné, il a demandé de passer par le territoire d'Édom. Il a dit « Non, on ne veut pas que tu passes là !» Et ils sont sortis avec des armes pour l'empêcher de sortir, de passer. On voit plus tard aussi que quand Jérusalem a été investi par Nebuchadnezzar, Édom disait « Allez-y, allez-y, rasez, rasez, qu'il n'y ait plus rien !» Et plus tard encore, on voit que dans Ézéchiel, il est marqué « Parce que tu avais une haine persistante, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse. » Dans Amos, « Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes d'Édom, même jusqu'à 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce que tu as poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion. » Et encore, il y a tout un prophète qui parle d'Édom, c'est Abias. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Waouh ! Ouh ! Mais c'est la parole. C'est le jugement de Dieu. Alors, l'apôtre Paul, en écrivant ça, dit, il fait des questions-réponses. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Point d'interrogation. Loin de là, certainement pas. Et Paul, au lieu d'essayer de justifier Dieu, il va en rajouter une couche. Il va dire, il va continuer. Il va dire, car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui vit, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le choix de Dieu. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin qu'en mon nom, que mon nom soit publié par toute la terre. Car il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. L'exemple de Pharaon. Alors ce matin, on a parlé de Pharaon. On a parlé dans Exode 3 que le peuple criait, souffrait, demandait l'intervention de Dieu parce que le peuple d'Égypte était un oppresseur. Il faut dire que les Juifs ont été esclaves 430 ans en Égypte. Alors, c'est vrai que Dieu appelle Moïse et c'est très intéressant dans Exode 3, juste après qu'il ait parlé à Moïse, il dit « Va !» Mais c'est très intéressant, Exode 3, verset 19, il dit « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. » La préscience de Dieu. « Je sais qu'il ne vous laissera pas aller. » Si ce n'est par une main puissante. « J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, et après quoi il vous laissera aller. » Et c'est vrai, effectivement, quand Moïse et Aaron sont présentés devant Pharaon, Il dit, voilà, il parle de la part de l'Éternel, il dit, laisse aller mon peuple. Et Pharaon répond, il est qui lui? Qu'est-ce qu'il est? Donc il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'Éternel. Et non, je ne laisserai pas partir le peuple. Donc il y a eu des plaies. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta ni Moïse ni Aaron, selon ce que avait dit l'Éternel. Il y a eu encore d'autres plaies. Zote 7, il dit, mais les magiciens d'Égypte en firent autant. Alors Pharaon, le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point. Après, il est dit, les magiciens dirent à Pharaon, fais attention, c'est le doigt de Dieu. Très intéressant. C'est ses propres magiciens qui disent à Pharaon, écoute là, attention là, c'est le doigt de Dieu là, ce qui se passe là. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Exode 9, d'autres plaies. Là, Dieu va faire une séparation dans les plaies. Il va faire que le peuple juif n'ait pas les plaies, mais que l'Égypte si. Et c'était la mortalité du bétail. Et il y a eu bétail qui a péri. C'est très intéressant. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit. La plaie de la grêle et de feu. Ah là, c'était la catastrophe. Et quand Pharaon a vu ça, il a fait appeler Moïse et Aaron. Et écoutez bien, c'est très intéressant. Voyant la pluie et la grêle et les coups de tonnerre, il appelle Moïse et Aaron, et cette fois il dit, j'ai péché. Ah, c'est l'Éternel qui est juste. Ah, ça y est, il commence. Avant, il ne connaissait pas qui est l'Éternel. Maintenant, il dit, c'est l'Éternel qui est juste. Et moi et mon peuple, nous sommes coupables. Waouh, mais c'est formidable. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle. Et je vous laisserai aller. Et je ne vous retiendrai plus. Waouh, mais voilà, formidable. Oui, mais après que Moïse a prié et que la plaie est terminée, qu'est-ce qu'il dit ? Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, il continua à pécher et endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Donc là, il a eu vraiment une révélation de Dieu. Il a reconnu que c'était Dieu. Et là, il a fermé son cœur. Et à partir de là, au chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers l'Éternel, car j'ai endurci son cœur. » Car j'ai endurci son cœur pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Et pour que vous racontiez à vos fils et à vos filles comment j'ai traité les Égyptiens. Et j'ai fait éclater au milieu d'eux ma gloire. Et la citation qui se retrouve dans Romains, c'est « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » C'est vrai que Dieu aurait pu tout de suite juger Pharaon. Dès le début, il aurait pu l'exterminer. Non, il a vu, il a constaté. Et après qu'il s'est endurci, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et Dieu a fait éclater sa gloire. Et on parle de lui encore aujourd'hui. Le peuple juif peut célébrer encore aujourd'hui. Voilà, nous avons été délivrés de Pharaon. Et c'était un témoignage, et c'est un témoignage pour toutes les nations, que Dieu, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui exerce ses jugements, c'est un Dieu qui délivre aussi. Dieu qui endurcit. Ça fait mal, hein ? Surtout qu'on parle souvent de Dieu d'amour. Dieu qui endurcit, mais oui, mais c'est dans la parole de Dieu. Dieu endurcit aussi. Il l'a fait pour son peuple. Il l'a fait pour son peuple aussi. À un moment donné, il dit, mais qui veut aller annoncer la parole? Ésaïe dit, oui, je veux. Il dit, ben, je vais te dire le message que tu vas avoir à dire. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et qu'il ne soit point guéri. Waouh ! Eh oui. Et pourtant, Dieu a envoyé X fois des personnes pour prévenir, des prophètes pour prévenir son peuple. Et cette citation, on le retrouve dans les quatre évangiles. Et c'est très intéressant. Dans le livre de Matthieu, cette citation est dans le chapitre 13. Quand il parle des paraboles. Juste avant, ils ont vu la main de Dieu. Quand Jésus a fait des miracles. Et ils ont dit, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et les paraboles, c'était pour... en fin de compte, ceux qui voulaient, ceux qui étaient, en fin de compte, déjà endurcis. Et la parole n'est pas pour eux. C'est dur, quand même. Et on peut continuer comme ça. D'autres exemples, on voit dans le début de Romains 1, où la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et il est même dit que ils ont changé la gloire de Dieu par des créatures. Ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Et Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, homme avec homme, et ainsi de suite. Dieu les a laissés pour qu'ils s'endurcissent. Waouh, mais c'est dur! Alors que faire? Il y a cet avertissement dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est important. On ne rigole pas avec Dieu. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est une grâce si j'entends sa voix. C'est une grâce si j'entends sa parole. Et c'est important de la recevoir. Mais si j'endurcis mon cœur... Et c'est pour ça que dans Romains 2, on a déjà vu, mais je le relis, Romains 2, versets 4 et 5, en parole vivante. « Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure et de te pousser à la conversion? Au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite soi-disant irréprochable. Prends garde de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Tu augmenterais sans cesse la colère divine inscrite à ton compte. Elle te serait payée en entier au jour de la colère et du jugement lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est solennel, c'est important. C'est vrai qu'on parle du Dieu d'amour, mais aussi un Dieu qui est juste, un Dieu qui, à un moment donné, il dit, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors peut-être, et encore de nouveau Paul qui dit, mais alors, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? La réponse de Paul, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Ou s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qui d'avance préparaient pour la gloire? Il ne faut pas oublier que Dieu est souverain. Il n'est pas simplement souverain, il est le souverain. Il est le maître. Il est le créateur de toutes choses. Et comme il est dit dans le psaume 115, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Qui suis-je pour contester avec lui? Quand j'essaye de contester avec lui, c'est comme si je mettais Dieu à mon niveau et je lui demande de rendre des comptes. Et c'est pas comme ça que tu dois agir. Non, moi, c'est, si j'étais à ta place, j'agirais autrement. Et combien des fois... Ouais, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, cela. Qu'est-ce que l'homme? Dans Isaïe, il dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu ? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré, et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté ? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir ? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ? Non. Dieu est Dieu. Nous, nous ne sommes que des humains. Et Dieu fait grâce à des humains comme nous. Et j'aime bien le témoignage de Nebuchadnezzar. Vous savez, Nebuchadnezzar, il était orgueilleux, très orgueilleux. Et à un moment donné, il a eu un songe. Et Daniel lui a donné l'explication de son songe. Puis il lui dit, tu sais, Nebuchadnezzar, ces choses vont t'arriver si tu ne te repens pas et si tu ne changes pas d'attitude. C'était par rapport à l'orgueil. Puis un an après, Nebuchadnezzar se promène, il dit, c'est moi qui ai battu Babylone. Et puis d'un seul coup, il était chassé de son trône. Et pendant 7 ans, il était parmi les animaux. Mais c'est très intéressant, son témoignage. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et ne lui dise « Que fais-tu ?» Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Il peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voilà. Très intéressant ce témoignage. Un païen qui donne son attitude vis-à-vis de Dieu après avoir été humilié, après avoir été châtié. Une bonne attitude de cœur, n'est-ce pas? Alors nous, il y a des fois, on ne comprend pas tout de Dieu. Moi, je ne comprends pas tout de Dieu. D'ailleurs, si on arrivait à tout comprendre de Dieu, pour moi, il ne serait plus Dieu. parce qu'on le mettrait dans une boîte et puis il agit comme ça, il agit comme ça, il doit agir comme ça et puis il y a comme ça. Non, Dieu nous dépasse. Nous savons que tout ce qu'il fait est juste. Et il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose d'important que nous devons accepter dans nos cœurs. Et des fois, bien souvent, nos cœurs n'acceptent pas ça. Dans toutes sortes de circonstances. Je pense à Jacques. Jacques, qui, dès le début, il a été tué par Hérode. Il y a eu Pierre après. Lui, il n'a pas été tué, lui. Il a été délivré par un ange. Ah, c'est différent. Comment ça se fait? Pourquoi ça n'a pas été pareil pour Jacques? Pourquoi ça n'a pas été pareil pour Pierre, pardon? Ah ben non, c'est différent. Dieu est souverain. Même à un moment donné, Pierre, Jésus dit à Pierre, tu sais, comment tu vas mourir, je te dis. Et puis Pierre lui dit, et puis Jean, qu'est-ce qui va lui arriver à Jean? Qu'importe, toi, suis-moi. Qu'importe, toi, suis-moi. Des fois, on veut des comptes à Dieu. Non, il faut accepter. Alors, c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est l'important dans nos cœurs de se soumettre à Dieu. Dire, mais Seigneur, je ne comprends pas tout. Il y a des choses qui me dépassent, mais je me soumets à toi. Je ne veux pas contester avec toi. Et je vous propose de reprendre Daniel 4, 37. Vous le prenez. Vous prenez le verset. Et quand il est marqué, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, vous mettez votre nom. Daniel 4, 37. Maintenant, moi, Michel, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies. Et toutes ces voix sont justes, et j'insiste. Ah! Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Combien il est bon de faire cette prière et cette reconnaissance. Et on peut continuer. Être reconnaissant. Dieu a permis que je le trouve. Dieu a permis que je me tourne vers lui. Dieu est venu me chercher. Et combien je peux le rendre grâce. Il m'a choisi au milieu des juifs et des païens. Et c'est vrai que si Dieu n'avait pas agi, si Dieu ne m'avait pas sauvé, eh bien comme il est dit, j'aurais été comme Sodome et Gomorre. Eh oui, parce qu'on mérite tous d'être perdus. Mais Dieu fait grâce. Et combien on peut être reconnaissant ce matin. Merci Seigneur d'avoir parlé, de m'avoir sauvé. D'être venu me chercher. Et aujourd'hui, par contre, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons prier.